Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Après quelques mésaventures sur des routes perdues, notre auteur, accompagné de sa femme, rejoint le chemin français non loin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est en découvrant l'existence de la Mochila Express que nous eûmes l'explication d'un phénomène qui nous avait frappé dès notre arrivée sur le chemin français. Les rares pèlerins que nous y avions rencontrés, à cause de l'heure déjà tardive, n'avaient sur le dos que de tout petits sacs de promenade à peine remplis. Nous avions d'abord admiré l'extrême frugalité de ces voyageurs sans bagages. Cependant, un détail nous intriguait. S'ils portaient sur eux à peine plus que le minuscule baluchon des sadhus indiens, ils étaient vêtus avec élégance et propreté. Nous y avions d'abord vu un miracle, avant de comprendre qu'il s'agissait simplement de l'heureux effet de la Mochila Express. Si ces marcheurs n'avaient rien sur le dos, c'était que leur chargement les attendait à l'arrivée. Sur le chemin français, la différence entre pèlerins riches et pèlerins pauvres, entre humilité et business, est plus apparente encore qu'ailleurs. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'Évangile avait prévu cette contradiction. Cependant, pour comprendre l'étrange destin de Saint Jacques, il faut se rappeler l'incident qui opposa Jésus à la mère de son disciple. La femme de Zébédée, le pêcheur, mère de Jean et de Jacques, était allée voir le Christ pour lui demander une faveur. Elle sollicitait le Messie afin que, au royaume des cieux, ses deux fils siègent à ses côtés. Cela lui avait valu un commentaire assez acide de la part de Jésus. Il avait rappelé à l'ambitieuse que le sacrifice de ceux qui le suivaient ne devait pas être consenti en vue d'obtenir des avantages futurs. Cet épisode n'est en quelque sorte pas terminé. Saint Jacques continue d'inspirer deux attitudes. L'une, humble et désintéressée, est celle des pèlerins solitaires et misérables qui arpentent l'Europe pour le rejoindre en son repaire de Compostelle. Les privations et l'humiliation sont leur lot quotidien. Ils les supportent parce qu'elles les aident à atteindre un objectif spirituel, quelle qu'en soit la forme. D'autres, au contraire, plus fidèles en cela à la mère de Jacques qu'à son apôtre de fils, cherchent dans le pèlerinage une rétribution. Ce qu'ils veulent, c'est un peu de la puissance et de la gloire qui s'attachent au roi des cieux et à ses serviteurs. Les nouvelles technologies sont appelées à la rescousse à chaque époque pour se mettre au service de ceux qui veulent un pèlerinage de confort. Cela produit parfois des résultats étranges. Ainsi, en traversant un bois de pins, avons-nous eu la surprise d'entendre une voix publicitaire tomber du ciel et nous vanter les charmes d'une auberge privée située à 2 km et proposant des chambres luxueuses. Il n'y avait aucun taillis dans ce bois. Seulement les troncs rectilignes des pins et, au sol, un tapis d'aiguilles rousses. Personne ne pouvait se dissimuler dans ce décor. Nous étions seuls. C'est alors, en revenant sur nos pas, que nous découvrîmes le secret de ce mystérieux message. Une cellule photoélectrique avait été disposée sur deux troncs entre lesquels passait le chemin. En marchant, les pèlerins coupaient le faisceau lumineux et déclenchaient un haut-parleur attaché à une branche. Nous n'eûmes pas à supporter longtemps ces désagréments car, déjà, c'était Compostelle. Avant même de voir la ville, nous rencontrâmes ces célèbres avant-postes, lieux d'excitation et de délivrance dont les noms magiques font rêver les pèlerins depuis le Moyen-Âge. Le Monte del Gozo, la Vacola, la Porte du Camino. Dernières épreuves. La Vacola, comme son nom l'indique, est le lieu où les pèlerins, sur le point d'atteindre le sanctuaire, procédaient jadis à de grandes ablutions. Quelques ruisseaux ménagent des trous d'eau dans lesquels il devait être possible de se laver au moins les pieds et peut-être un peu plus. Il ne paraît guère probable que ces installations naturelles puisse permettre une toilette approfondie à la mesure de la saleté que le chemin avait déposée sur la peau des malheureux marcheurs. Mais enfin, c'était mieux que rien, et en tout cas suffisant pour que les jaquets se sentent présentables. De toute manière, c'est leur âme qu'ils venaient soumettre à la bienveillance de l'apôtre, et elle, le chemin l'avait nettoyé en profondeur. La Vacola, aujourd'hui, est le site de l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des avions gros porteurs y déposent en troupe des pèlerins du monde entier, mais qui jugent inutile ou impossible pour eux de venir en marchant. Le trafic de l'aéroport est tel qu'il a fallu allonger la piste ou en ouvrir une nouvelle. En tout cas, un immense remblai, à peine terminé quand nous y passâmes, domine le chemin. Toute une installation de balises rouges et blancs, de phares puissants destinés à signaler la piste et de grillages surplombe l'étroite gorge encombrée de broussailles dans laquelle se glisse le sentier des pèlerins. Si dans les Landes asturiennes, le chemin était imprégné d'une spiritualité abstraite, détachée de toute religion et que j'ai qualifiée, faute de mieux, de bouddhique, à l'approche de Santiago, il est de plus en plus marqué par les symboles et les valeurs chrétiennes, et même plus précisément catholiques. À La Vacola, par exemple, c'est la dimension d'humilité du christianisme qui s'impose. Le pèlerin minuscule, recrue de fatigue, marche au milieu des fourrés, tandis que des engins monstrueux, bulldozers, pelles mécaniques, camions bennes, déversent jusqu'au bord de son chemin la terre grasse du nouveau remblai. Au-dessus de lui passe en vrombissant la masse d'acier rutilant des quadriréacteurs venus de l'autre côté des océans. Le marcheur se sent infiniment petit sous le ventre de ces monstres. La tradition qu'il perpétue pas après pas lui semble dérisoire, hors du siècle et dépourvue de sens pour toutes les personnes raisonnables, celles qui se rendent à Compostelle par les airs. Et pourtant, d'une façon éminemment chrétienne, l'âme minuscule, insignifiante, écrasée du pèlerin, est gonflée d'orgueil. Car il apporte à l'apôtre une chose infiniment précieuse dont les voyageurs du ciel sont dépourvus. Sa souffrance, son temps, son effort, la négligeable et sublime preuve de sa dévotion, ses millions de pas accomplis par tous les temps et sur les plus durs chemins pour arriver jusque-là.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions de Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.